journal Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Europe 1 mobilisé pour vous faire vivre toute cette journée, la rentrée littéraire. C'est la thématique de ce vendredi. Pas moins de 490 nouveaux romans atterrissent sur les étals des librairies jusqu'au mois d'octobre. Une période charnière pour gagner en visibilité auprès des lecteurs. Ce matin, on vous emmène à la librairie de Paris, magasin emblématique de la place de Clichy dans le 17e arrondissement. Là-bas, l'arrivée des nouveaux livres est toujours un moment d'excitation et d'effervescence, Louise Salé.
Au centre du magasin, des tables, beaucoup plus que d'habitude, croulent sous les ouvrages qui sont changés de place trois fois par jour. Une astuce de libraire pour attirer l'œil.
Je dirais que l'endroit un peu magique, c'est le pilier qui se trouve juste à l'entrée du magasin.
Géraldine Mosservet, responsable de la librairie, septembre est un mois décisif pour gagner en visibilité.
La rentrée littéraire est un moment effectivement très important en librairie, qui est un moment médiatique, qui est un moment d'excitation aussi. Et septembre, effectivement, c'est vraiment la période où on va accompagner le plus possible les auteurs, les éditeurs. On est sur un programme très chargé puisqu'on a quasiment une rencontre par soir. Comme ça, le soir, on a un petit système de banc, les gens peuvent s'approcher. Et puis, ça avait quand même un petit cocon, mais qui est quand même au cœur de la librairie. Et ça, c'est important pour nous.
Muriel est venue profiter de cette rentrée.
Il va y avoir des choses à découvrir, des auteurs que j'aime bien. Maintenant, je ne viens pas avec une idée préconçue. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur.
D'autres se baladent plus rêveurs, comme Ayob étudiant.
Je trouve que déjà, il y a une ambiance assez solennelle. Je trouve que c'est assez agréable de pouvoir avoir le livre, pouvoir les toucher, être proche d'eux. Je suis déjà aspiré, quoi. Donc voilà.
Après avoir hésité avec Cher Connard de Dépente, Ayob a finalement jeté son dévolu sur un classique, Le Joueur de Dostoïevski.
Le reportage de Louise Salé.
Voilà, et en cette rentrée littéraire, c'est une information Europe 1. Les livres vont coûter 1 euro de plus en moyenne à partir du mois de janvier.
C'est ce qu'annonce Philippe Robinet, le directeur général de Calman Lévy. Il sera l'invité d'Elisabeth Assayag dans La France bouge entre 13h et 14h sur Europe 1. Et il prévient déjà, la hausse des prix est inévitable.
Aujourd'hui, le coût du papier, j'ai un impact direct de 2 euros par exemplaire. On ne va pas répercuter les 2 euros, mais on va en répercuter une partie.
Donc évidemment. Vous allez répercuter quoi ? 1 euro ?
Oui, à peu près.
1 euro, vous nous dites aujourd'hui, 1 euro sur chaque livre, à partir de quand ?
À partir du début de l'année prochaine.
Augmentation d'un euro donc par livre, et on a voulu savoir, Baptiste Morin, si les autres éditeurs vont eux aussi suivre le mouvement.
Tout simplement parce que fabriquer un livre coûte de plus en plus cher. Rendez-vous compte, en un an, le prix de la pâte à papier a presque doublé. La tonne est passée de 600 à 1100 euros. Ajoutez à cela l'augmentation des prix de l'énergie pour faire tourner les rotatives, celui du carton d'emballage, du transport, de la livraison, tout a augmenté. Alors en août dernier, la maison d'édition bretonne indépendante, Locus Solus, a déjà pris cette lourde décision, augmenter de 1 ou 2 euros le prix du livre. Le responsable commercial Régis Lemercier l'explique, les solutions étaient limité.
Il y a deux solutions en fait qui s'offrent à nous. C'est éventuellement d'augmenter le prix du livre ou alors c'est d'augmenter le tirage, la quantité de livres imprimés pour compenser cette augmentation du prix du papier.
Les éditions Flammarion, Fayard et Duseuil que nous avons contactés nous ont répondu qu'une telle décision n'était pas à l'ordre du jour de leur côté. Mais en coulisses, certains nous confient qu'elle finira par s'imposer car sur un livre vendu 20 euros, l'éditeur ne perçoit que 4 euros. Lorsqu'il prend une augmentation de 1 euro à son compte, il réduit donc son revenu par livre de 25%.
Les précisions de Baptiste Morin pour Europe 1. Inflation, augmentation des prix de l'énergie, LVMH présente sa feuille de route pour réduire sa consommation. Après la grande distribution, c'est le numéro 1 mondial du luxe qui s'engage à participer à l'effort à l'heure de la sobriété énergétique. LVMH veut réduire de 10% sa consommation d'électricité d'ici à octobre 2023 dans l'Hexagone. Parmi les annonces du groupe, l'extinction des lumières dans les magasins et les sites de production entre 22h et 7h du matin. La crise énergétique, un des sujets qui est au cœur des journées parlementaires des Républicains. Elles ont commencé hier à Biarritz et ça continue aujourd'hui. Députés et sénateurs LR travaillent pour préparer la rentrée à l'Assemblée et au Sénat avec cette volonté d'être une opposition constructive. L'occasion aussi pour les candidats à la présidence du parti, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, de faire campagne car ils ont besoin chacun de 485 parrainages de militants, 10 de parlementaires avant le 3 octobre. Le reportage d'Alexandre Chauveau.
Réunis au Palais des Congrès avec vue sur l'Atlantique, les parlementaires LR veulent surfer sur le résultat des élections législatives pour peser le plus possible à l'Assemblée. Mais en sous-main, la présidence du parti occupe la plupart des conversations. Chacun met en avant ses atouts. Bruno Retailleau revendique l'air de rien, le soutien des élus.
On est à Biarritz, Maïder Afstegui me soutient, d'autres élus aussi. Julien Aubert m'a rallié ma candidature cette semaine, aux côtés de François-Xavier Bellamy, d'Otman Nasrou.
Quand Éric Ciotti compte directement sur les militants.
Ceux qui votent, ce sont les militants, personne d'autre. C'est d'eux d'où vient la confiance et je sais que cette confiance chez les militants, elle est forte pour ma candidature.
Enfin, Aurélien Pradier a séché la réunion convoquée par Annie Genevard pour tenter de convaincre les trois prétendants de ne pas faire de vagues. Le député du Lot organise en marge une conférence de presse et bien que conscient de son déficit de notoriété, il affiche clairement ses ambitions.
Nous allons aller convaincre les adhérents un par un. Nous savons faire, ce sera avec les dents, irons les chercher comme nous l'avons fait pour nos propres électeurs.
Hier soir, les trois prétendants ont dîné ensemble, mais chacun au plus proche de ses soutiens. Chez les Républicains, la course à la présidence est officiellement lancée. Biarritz, Alexandre Chauveau, Europe 1.
Le premier tour du scrutin aura lieu les 3 et 4 décembre prochains.
Europe 1, il est 8h07, vous écoutez le journal de Clément Barguin. En Ukraine, une fosse commune a été découverte à Izioum, ville reprise aux Russes il y a quelques jours, dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv.
Ouais, c'est ce qu'a affirmé hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son message vidéo quotidien. Écoutez.
Une fosse commune a été découverte à Izioum, dans la région de Kharkiv. Les procédures de vérification ont déjà commencé. Et il devrait y avoir plus d'informations demain, car des journalistes ukrainiens et internationaux viendront à Izioum. Nous voulons que le monde sache ce qu'il se passe réellement et ce à quoi l'occupation russe a conduit. Boutcha, Mariupol et maintenant, malheureusement, Izioum.
Dans le même temps, Ursula von der Leyen souhaite que Vladimir Poutine soit traduit en justice. Dans une interview à un média allemand, la présidente de la Commission européenne déclare que le président russe doit être jugé devant la Cour internationale pour les crimes de guerre commis en Ukraine.
Ursula von der Leyen qui fera partie des nombreux dirigeants présents lundi à Londres pour les obsèques de la reine Elisabeth II.
Londres et cette image toujours aussi impressionnante. Des milliers de Britanniques prennent leur mal en patience pour se recueillir devant le cercueil de la reine. La file d'attente s'étend sur plusieurs kilomètres, mais alors que le centre de Londres pleure Elisabeth II, dans le quartier des affaires, business is business, à la City, la vie continue. Pas le temps de verser une larme, le reportage de Thibaut Hu.
Ni gerbe de fleurs, ni larmes, mais des mallettes et des costumes tirés à quatre épingles. Loin de la ferveur de Westminster, en plein cœur du quartier d'affaires de Londres, le business ne laisse pas de place à l'émotion. Depuis la mort de la reine, ici, c'est comme si rien ne s'était passé, assure Daniel, un comptable.
Ici, à la City, c'est plutôt normal. Il y a juste le lundi férié, mais c'est tout. La vie doit continuer, on ne peut pas prendre 10 jours de pause. Un jour seulement pour les funérailles, et ça ira, tout doit rester normal.
Dans le bureau de Sam Courtier, dans une banque, pas de photo d'Elisabeth II ou dommages rendus. Et ce jeune londonien, cravate rouge et cheveux blonds, vient travailler aussi sereinement que d'habitude. L'annonce du décès n'a pas fait trembler les marchés financiers.
Je n'ai pas vu d'impact, ce n'est rien du tout après ce qu'on a vécu avec le Covid ces deux dernières années. La monarchie, c'est à part. Si le gouvernement se disloquait, il y aurait de grosses conséquences ici. La monarchie, on aime la voir, mais c'est surtout une attraction touristique.
Et les touristes seront d'ailleurs très nombreux lundi prochain pour les funérailles, plusieurs millions, pendant que la plupart des emplois de la City se reposeront chez eux comme Julie.
Je n'ai pas envie de me joindre à ça, je suivrai depuis mon canapé.
À Londres, Thibaut Hu, Europe 1.
Et enfin, lui aussi s'envolera vers Londres pour un dernier match. La légende du tennis s'apprête à tirer sa révérence.
Roger Federer va définitivement ranger sa raquette. À 41 ans, le Suisse jouera son dernier match à Londres la semaine prochaine lors de la Laver Cup. Il laisse derrière lui un palmarès énorme, 103 titres dont 20 dans les tournois du Grand Chelem. Quel avenir maintenant pour Roger Federer ? Il répondait à cette question au micro d'Europe 1. C'était en 2016 face à Thomas Soto.
Et j'ai pris beaucoup de plaisir de pouvoir vraiment avoir plein de temps pour moi, mes plus proches.
Mais vous ferez quoi ? Ça sera dans le monde du sport ? Vous gérez votre marque, Roger Federer ? Ou ça sera quoi la
Bah, plus de temps pour la fondation, numéro un. Oui. Forcément, ça c'est très proche de mon cœur. Dans le tennis. Je pense toujours que je vais avoir un sort de rôle de coaching, toi, de le faire. Plein temps, c'est impossible avec quatre enfants. Ouais. Je préfère d'être le papa plein temps et le mari plein temps.
Roger Federer, invité d'Europe 1 en 2016.
Voilà, Europe 1, la radio du tennis, partenaire de Roland Garros, évidemment. On est très touchés de cette annonce de la retraite de Roger Federer. Peut-être reviendra-t-il, on ne sait pas. Merci Clément Barguin, c'était votre journal. Il est 8h11, dans un instant, Stanislas Guérini est l'invité d'Europe Matin. À tout de suite.